raconte. Christophe Ondelatte.
Le 16 février 2017, à Orvault, près de Nantes, Hubert Caouissin a tué toute la famille de sa femme, les Troadec, c'est-à-dire son beau-frère, sa belle-sœur, son neveu et sa nièce. Et quand on lui a demandé pourquoi, eh bien il a dit qu'il voulait se venger. Je vous propose d'ouvrir ensemble la côte B du dossier d'instruction d'Hubert Caouissin.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
Hubert Caouissin est breton. Il est buté et borné. Quand il pense qu'il a raison, rien ne peut le faire changer d'avis. Et pendant des années, il a nourri une parano contre sa belle famille. En février 2017, les Troadec disparaissent. Toute la France les recherche et la presse s'emballe. On parle d'une nouvelle affaire du pont de Ligonnès. Après 2 semaines d'enquête, Hubert Caouissin et sa femme Lydie Troadec sont placés en garde à vue. Et au cours de sa dernière audition, la digue craque. Caouissin confesse tout. Il les a tués à coups de pied de biche. Et ensuite, il a minutieusement découpé les 4 cadavres avec un couteau de cuisine. Il a brûlé une partie des corps dans sa chaudière. Et le reste, il l'a dispersé dans une forêt près de chez lui, à Pont-de-Buis, dans le Finistère. 3 jours après ses aveux, les 2 juges d'instruction l'embarquent pour tenter de retrouver les restes des cadavres. Et il n'a pas menti.
On est en examen Hubert Caouissin et Lydie Troadec le lundi 6 mars 2017.
Aude Le Quinquis, juge d'instruction.
Et comme dès la garde à vue le dimanche, il nous a donné énormément d'éléments dont on n'avait pas connaissance sur le lieu où se trouvent les corps, il est extrêmement urgent d'aller les retrouver. En espérant qu'on pourra les exploiter parce qu'on ne sait pas trop. Les fêtes datent à ce moment-là de quasiment 3 semaines. Donc on ne sait pas trop dans quel état on va retrouver les corps. Il évoque en plus qu'ils ont été découpés. Nous, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. Donc il faut absolument être très réactif, désigner les experts. Et on va se rendre sur les lieux dès le mercredi 8 mars 2017 avec les enquêteurs, donc les 2 juges d'instruction, la greffière, moi-même, le médecin légiste. Dans des conditions un peu particulières, d'une part parce que c'est extrêmement médiatisé, donc sur les lieux, beaucoup de journalistes sont présents.
Hubert Caouissin, assassin présumé de la famille Troadec, va sortir de prison ce matin. Il sera emmené sous très haute surveillance dans sa ferme de Pont-de-Buis, dans le Finistère, là où il se serait débarrassé des corps des parents et des 2 enfants.
Et on va s'y rendre, sans savoir trop ce qu'on va découvrir, dans des conditions climatiques assez difficiles aussi. On est dans le Finistère au mois de mars, une zone très marécageuse et très très étendue. Et donc on va découvrir une scène assez épouvantable, hein, puisqu'on va découvrir dans les ronces des éléments corporels, des muscles et des viscères. Plus de 350 éléments corporels de cette nature. On va découvrir aussi des ossements à certains endroits. Donc voilà, on sait que les 4 victimes, les 4 personnes qui initialement n'étaient que disparues, sont bien décédées. Donc 2 jeunes gens, hein, Charlotte Troadec avait 18 ans, Sébastien Troadec allait avoir 21 ans. C'est un moment très marquant. Donc il y a à la fois une satisfaction professionnelle et en même temps, humainement, on est magistrat, on est juge, on est aussi... Nous sommes des personnes.
Ordonnance de mise en accusation. L'autopsie des restes humains permettait de mettre en évidence la présence de 4 individus. L'étude de ces fragments humains ne permettait pas, en revanche, de déterminer les circonstances et les causes du décès de chacun. Le cœur des victimes n'a pas été retrouvé. Les médecins légistes évoquent des incisions de la cage thoracique pouvant traduire une volonté spécifique d'extraire cet organe. Il est observé enfin que les corps avaient été écorchés avant d'être dépecé.
Et effectivement, on ne peut pas sortir complètement indemne d'un moment comme celui-là. De découvrir des éléments de corps, de quatre personnes. Et effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est quand même un certain traumatisme. Après, on le gère parce qu'on est des professionnels, on met la distance nécessaire. Après, c'est quelque chose à digérer, effectivement. Et puis, c'est là qu'aussi va se créer un peu, va se nouer la relation avec Hubert Caouissin.
Code B51. Rapport d'expertise psychologique de Caroline Barabarias et Alain Dumès. Hubert Caouissin travaille à la gestion des travaux de l'arsenal de Brest. Il est marié à Lydie Troadec depuis 12 ans. Hubert Caouissin a 48 ans. C'est un sujet posé et soigné. Son visage reste assez fermé et ne donne à voir aucune manifestation émotionnelle ou affective. À quelques reprises, des rires immotivés peuvent surgir et semblent renvoyer à une forme de jubilation de détenir une vérité que l'autre ne possède pas.
Voilà, il va beaucoup coopérer. C'est la particularité d'Hubert Caouissin qu'il coopère énormément. En même temps, en coopérant, il garde un peu la maîtrise des éléments qu'il nous communique. Ce sera la même chose en interrogatoire, c'est la même chose lorsqu'on va sur les lits. Comme si, je crois qu'il y avait une certaine satisfaction aussi à jouer son rôle, à montrer ce qu'il avait fait. Oui, c'est assez troublant. Hubert Caouissin, ce qui est vraiment complètement atypique, on a interrogé Hubert Caouissin 8 fois. Des interrogatoires extrêmement longs et denses, de 6 heures en moyenne. En général, on le convoquait à 14 heures. On ressortait à 20 heures des interrogatoires. Avec effectivement une volonté d'Hubert Caouissin d'énormément parler, un vrai souci du détail. Et on a fait le choix de le laisser s'exprimer, parce que ça parlait aussi quelque part de sa personnalité. On a eu des larmes une ou deux fois. Quand il évoquait Charlotte, c'est là que c'était un petit peu plus difficile, qu'il lui avait beaucoup dit pardon. Mais sinon, c'est quelqu'un qui maîtrise assez bien ses affects.
Code B51, rapport d'expertise psychologique de Caroline Barabarias et Alain Dumais. Hubert Caouissin reste hors sens et hors affect. Il se contente de raconter de manière fonctionnelle la dimension opératoire de sa pensée prévaut. J'avais travaillé dans l'organisation pour me débarrasser des corps. J'ai fait les choses les plus inouïes, les plus insensées, les plus débiles qui puissent se faire. Il fallait tout enlever les corps. Et j'ai eu l'idée de les faire passer dans la chaudière.
Il parle tout le temps et il raconte par le détail, parce que je pense qu'il a un tempérament comme cela au départ.
Maître Thierry Filion, avocat d'Hubert Caouissin.
C'est quelqu'un d'extrêmement minutieux et donc il va avoir l'idée de tout raconter, ce qui s'est passé en détail, quasiment minute par minute, y compris des scènes qui évidemment sont extrêmement difficiles à entendre d'abord, difficiles à revivre même par la parole. Et puis qui sont pas forcément favorables à sa défense d'ailleurs, c'est les scènes de découpage, de dépeçage.
Je voulais enlever les corps et puis faire comme si c'était rien passé. Faire comme si il y avait pas eu de lutte, rien. J'ai mis les corps sur une grande bâche, j'ai coupé les chairs avec le couteau, et après j'ai séparé la colonne vertébrale, toujours avec le couteau, et puis j'ai commencé à les découper avec un seul couteau de cuisine. Hein. Alors j'ai démarré par les têtes parce que j'avais du mal à les voir quand même. Hein. J'avais du mal à accepter ce qui s'était passé, quoi. J'ai séparé les muscles des viscères parce qu'il faut bien découper dans un certain sens, hein, sinon ça marche pas. J'ai travaillé franchement comme un forcené, hein, pendant 2 jours.
Alors, la logorée d'Hubert Caouissin lors des interrogatoires, ça répond certainement à la manière dont il est, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une sorte de méticulosité, de rigidité, qui fait que quand il parle de quelque chose, il doit tout dire. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est je pense que c'était une façon pour lui peut-être de commencer à se laver de cette faute morale pour lui, qu'il sait exister, bien évidemment. C'est quelqu'un d'intelligent, Hubert Caouissin. Et je crois que le fait de tout dire, c'est aussi peut-être l'idée qu'il a, dans la mesure où il reste en vie, pour assumer sa responsabilité vis-à-vis des crimes. C'est sa responsabilité, c'est de tout dire, c'est-à-dire de dire au juge d'instruction tout ce qui s'est passé.
Code B10, enquête de personnalité réalisée par Amandine Le Bihan. Monsieur Caouissin Hubert indique qu'il s'agit de sa première incarcération. Il a été placé à l'isolement dès son arrivée. Seul en cellule, il dit avoir tenté de mettre fin à ses jours au bout de 2 mois et demi. Sur le plan des soins, il rencontre régulièrement un psychiatre et un psychologue.
Il faut savoir que j'ai rencontré pour cette première fois Hubert Caouissin alors qu'il était à l'isolement, donc dans le quartier, ce qu'on appelle le QD, le quartier disciplinaire, qui ne correspondait pas à de la discipline pour lui, mais à une protection pour lui. Et donc c'était une pièce totalement nue. C'est surtout ça qui reste dans ma mémoire, la nudité de cette pièce où il n'y avait quasiment rien. Et ce petit homme inquiet qui effectivement est au milieu de cette pièce et qui paraît totalement dépassé par la situation. Il allait très mal vis-à-vis de l'acte qu'il avait commis et dont il commençait à avoir plus ou moins conscience. Je pense qu'il a, il n'a pas de souvenir véritable, ce qu'il protège quelque part. Et par moments, il dira qu'il voit ou qu'il ressent comme des flashs d'une situation traumatique vécue. Et parmi ces flashs, il y a Charlotte, qu'il se voit frapper, qu'il voit en sang. Et lorsqu'il a ce type de flash, il n'a qu'une idée, c'est mettre fin à ses jours pour sans doute oublier ce qui s'est passé, oublier ce qu'il a fait et ne plus subir en fait ces flashs qui le rendent extrêmement malheureux et dépourvu.
Maître, franchement, je suis désespéré. Franchement, j'ai plus envie de vivre. Ce que j'ai fait, je me le pardonnerai jamais. Et jamais on pourra me le pardonner. Je veux tout expliquer. Tout dire. J'irai dans les moindres détails. Moi, je veux rien cacher au juge, rien. Je sais qu'ils attendent des explications sur mon geste.
L'emploi du temps d'Hubert Caouissin dans les jours qui ont précédé le crime se précise.
Oui, et on apprend d'abord que cette semaine-là, la semaine du 16 février, Hubert Caouissin avait posé des vacances. Cela faisait plusieurs semaines qu'il avait repris son travail d'ingénieur à l'Arsenal de Brest en mi-temps thérapeutique après 3 ans d'inactivité liée à un burn-out.
Pascal Troadec.
Oui, car c'est ce qu'il a toujours défendu comme thèse. Hein. La bagarre qui tourne mal, Hubert Caouissin prétend qu'il est venu espionner la famille Troadec en écoutant aux portes à l'aide d'un stéthoscope pour obtenir des renseignements sur un supposé trésor de lingots d'or que la famille lui aurait caché, mais que personne n'a jamais retrouvé.
Hubert Caouissin, l'une de ses préoccupations, quand il est arrivé au centre pénitentiaire de Nantes, il a été en proie tout de suite à pas mal d'interpellations, même à travers les cloisons, à travers les grilles, d'une cour à l'autre, etc. Avec évidemment des injures, avec évidemment des menaces, parce que c'est souvent ce qui se passe dans ces cas-là quand les affaires sont très médiatisées. Et ça a entraîné chez lui une réaction de peur, dont il a fallu ensuite le protéger. Il savait que les médias continuaient à se faire l'écho de tout cela et on est intervenu à notre place pour faire ressortir le fait qu'il n'y avait aucun élément qui pouvait permettre de penser que les actes criminels avaient été prémédités.
Europe 1, Côte B.
Christophe Ondelatte.
Alors, qui est cet Hubert Caouissin qui a commis l'innommable? C'est un Breton du fin fond du Finistère. Un type gentil, mais qui ne lâche jamais. Son caractère prend sa source dans son enfance, singulière. Hubert est le dernier d'une fratrie de 4 enfants.
Le grand drame d'Hubert Caouissin et de ce foyer, c'est qu'il avait une mère très fragile sur le plan psychologique.
Maître Thierry Filion, avocat d'Hubert Caouissin.
Donc c'est une mère qui s'alcoolise beaucoup. C'est une mère qui, quand elle s'alcoolise, est violente, surtout verbalement. Il a l'amour de son père, mais le père, compte tenu de ce contexte familial, est plutôt absent. Et puis ses frères et sœurs avec qui Hubert a des liens affectifs plutôt forts, vont partir les uns après les autres de la maison familiale puisqu'ils sont beaucoup plus âgés. Ce qui fait qu'Hubert Caouissin va se retrouver assez rapidement très isolé. On va retrouver à l'école un peu ce qui existera beaucoup plus tard ensuite pour lui et qui présidera aux faits criminels. L'impression que les autres ne l'aiment pas, il n'aime pas les autres, il ne fait pas confiance. Et l'isolement familial à la maison va être redoublé par l'isolement psychologique à l'école. Donc on a un enfant puis un adolescent plutôt en souffrance. Le sentiment de rejet va se poursuivre avec ses premières relations sentimentales, ce qui va le dissuader en définitive de faire confiance aux femmes, alors qu'il ne faisait déjà plus confiance à sa mère, plus confiance à ses camarades d'école, et jusqu'au moment où en 2006, il va avoir le bonheur de rencontrer Lydie, qui deviendra son épouse.
Côte B57. Rapport d'expertise psychologique de Caroline Barabarias et Alain Dumez concernant Lydie Troadec. Sa relation avec son mari Hubert Caouissin est décrite par des thématiques de sécurité psychique, de nourriture culturelle qu'il lui a fournie à elle, de gentillesse, de maternité et de beauté qu'elle lui a garantie à lui. Les émotions et sentiments sont peu présents. Ce que j'ai aimé chez Hubert, c'est sa gaieté et son côté protecteur. Je me sentais rassuré et à l'écoute. Je ne m'ennuyais jamais avec lui.
Ils vont tous les deux trouver dans l'autre une sorte de bouée de sauvetage. Et en fait, ils vont devenir collés l'un à l'autre. Ils vont se réconforter l'un l'autre. Ils vont avoir le projet d'avoir un enfant assez vite, avec la naissance de leur fils en 2008. C'est une période de réconfort et de bonheur pour eux. Hubert Caouissin aura ce mot assez terrible. Il dira « on n'a pas eu beaucoup d'années de répit ». Hubert Caouissin va concevoir une inquiétude, une angoisse terrible tout de suite pour la vie de son fils. C'est vrai qu'il y a des problèmes de santé assez rapidement pour ce nourrisson. La deuxième année croche, c'est en 2009. Ils vont vivre tous les deux une épreuve assez terrible. Lydie est atteinte d'un cancer. Et cette épreuve-là va les laisser extrêmement marqués, tous les deux, et notamment Hubert Caouissin. Mais Hubert va aussi s'épuiser physiquement parce que pendant cette période, il soutient Lydie, il va à l'hôpital, il s'occupe de leur fils, il continue à travailler. C'est-à-dire qu'on a là les prémices de l'épuisement physique et psychologique qui va être le sien quelques années plus tard.
Hubert Caouissin et sa femme Lydie Troadec surmontent le cancer de madame seuls, repliés sur eux-mêmes. Ils s'isolent et ils se sentent rejetés du reste de la famille Troadec. Bref, ils se montent la tête. Ils pensent entre autres que le frère de Lydie, Pascal Troadec, a fait main basse sur un magot familial.
La conviction profonde d'Hubert Caouissin, qu'il partageait totalement avec sa belle-mère et avec sa femme, Lydie, était qu'il existait un magot qui avait été caché par le père de Lydie et que ce magot avait été trouvé par hasard par Pascal Troadec, que Pascal Troadec n'avait rien dit à personne, qu'il s'était emparé de ce magot, lingot d'or, pièce d'or, on ne saura jamais. On a quand même une croyance forte à Troyes qu'effectivement, il y a une spoliation. Ce que ne supportait pas Hubert Caouissin, c'était l'injustice de la situation. Il a toujours contesté vertement le fait d'avoir été intéressé par l'argent. Et à partir de ce moment-là, les relations avec Pascal et Brigitte Troadec vont devenir délétères, avec des crises, notamment une crise en juin et juillet 2014, qui seront une des dernières fois où ces personnes se verront réellement.
Enregistrement d'une discussion téléphonique houleuse entre Pascal Troadec et Hubert Caouissin. Pascal, je sais, hein, pour le magot. Je sais que tu l'as. Il appartenait à votre père. Et me mens pas, surtout, hein. Tu sais, j'ai fait des recherches, hein.
de l'or a été perdu à la Seconde Guerre mondiale. Des sommes qui appartenaient à la Banque de France. 200 tonnes d'or.
Mais ça va pas, mais d'où tu sors ça, Hubert? T'es un grand malade. T'es complètement taré.
Maintenant que vous savez, je comprends mieux votre comportement, hein. Vous en voulez à notre fils? Vous voulez le spolier? Ça se passera pas comme ça, moi je te le dis. On tuerait une famille pour moins que ça, hein.
Hubert et Lydie Caouissin vivent dans un endroit extrêmement isolé, dans le Finistère.
Maître Thierry Filion, avocat d'Hubert Caouissin.
C'est dans un endroit encaissé, il faut descendre, il y a beaucoup de buissons un peu partout, et il y a une espèce de corps de ferme. Ce qui marque dans cet endroit, c'est qu'on est au milieu de nulle part, en fait. On ne sait pas trop où on est, on ne voit pas d'habitation autour, il n'y a que la végétation. C'est même assez inquiétant comme endroit, on peut dire. En tous les cas, cet endroit correspond bien à ce qu'on va découvrir, à savoir l'isolement mental, psychologique extrêmement important. Et ce retrait à trois va évidemment renforcer les croyances paranoïaques et en définitive le déphasage total vis-à-vis de la réalité.
Code B à 51. Rapport d'expertise psychologique de Caroline Barabarias et Alain Dumès. Hubert Caouissin vit dans la peur. L'hostilité de la part de Brigitte et Pascal est, selon Hubert, ancienne, mais trouve toute sa dimension en 2014 et devient le cœur d'un système interprétatif et délirant. J'ai toujours vu que Brigitte et Pascal avaient un comportement hostile envers notre fils et Lydie. Un jour, alors que ma femme était enceinte, ils lui ont mis le chat dans les bras, alors qu'elle n'était pas immunisée contre la toxoplasmose. Je craignais qu'il nous fasse assassiner. Et puis ma belle-mère avait parlé d'un magot trouvé par mon beau-père. J'étais persuadé que Pascal avait mis la main sur ce trésor.
Plongé dans l'esprit des plus grands criminels.
Côte B sur Europe 1.
Christophe Ondelatte.
Hubert Caouissin en veut à sa belle-famille. Il est persuadé qu'elle s'est liguée contre lui, qu'ils ont découvert un magot en or et qu'ils l'ont mis à l'écart. Pendant 3 ans, il cherche des preuves. Il espionne les trois decks, il écoute aux portes. Et un soir, il se fait surprendre par eux. C'est là que débute le massacre.
Là, son but, la nuit des faits, n'était pas du tout de venir les tuer, mais qu'il voulait aller faire un dessin de la clé de la porte d'entrée.
Aude Le Quinquis, juge d'instruction.
En imaginant qu'en dessinant cette clé, il pourrait la faire reproduire chez un serrurier. Comme il a fait du bruit, Pascal et Brigitte se sont réveillés, enfin Pascal le premier, et que c'est là que la scène a dégénéré, mais que c'est Pascal qui avait un pied de biche, qui l'a frappé, et qu'ensuite il explique qu'il se serait défendu, et puis qu'après la scène a pris une ampleur, et que seul, lui, donc il a tué ses quatre victimes. Je crois qu'il y avait une certaine satisfaction aussi, à jouer son rôle, à montrer ce qu'il avait fait. Ce souci du détail qui était quand même des fois extrêmement cynique, hein, dans, quand il détaille le découpage des corps, qui sépare dans les articulations la partie concave de la partie convexe, la manière dont il insère le couteau, dont il regarde les visages, c'est quelque chose qui interpelle forcément. Alors, il disait que ça le passionnait, que tout ce qui était médical... le passionnait, mais c'est quelque chose qui a été constaté par tous les experts. Les experts en incendie ont dit qu'il avait des connaissances. Alors, il a été chaudronnier, hein, certes, mais qu'il avait des connaissances assez importantes. Et les médecins légistes ont aussi constaté sur le fait qu'il avait une maîtrise, effectivement, une connaissance des corps qui était interpellante.
Le travail des magistrats instructeurs, c'est de conduire l'action de la police judiciaire, c'est-à-dire de conduire l'enquête, de mener les investigations qui doivent nous permettre, nous le souhaitons tous, dans des délais rapides, d'interpeller un ou plusieurs criminels, je n'en sais rien, de découvrir une ou plusieurs victimes, je n'en sais rien.
Le procureur de Nantes en est maintenant certain. C'est dans un contexte de violence grave que la famille Troadec a disparu. Dans leur maison, la vaisselle attend d'être faite dans l'évier et le frigo est plein. Un cadre banal qui tranche avec les nombreuses traces de sang découvertes par les enquêteurs, notamment à la porte du garage.
La particularité quand même, c'est qu'il va se confier à son fils, avant les gardes à vue, puisqu'il regardera beaucoup la télévision, BFM Télé, et puis il dira à son fils, tu vois, ce monstre, c'est moi.
Ordonnance de mise en accusation. Le fils d'Hubert Caouissin est entendu par le juge des enfants. Il déclare « Quand j'ai su qu'il y avait deux juges d'instruction sur l'affaire, je me suis dit que le tueur était peut-être en vie et les Troadec aussi. C'était avant que papa me dise le secret. Ce secret, c'était qu'il avait tué la famille Troadec. Et là, j'ai pleuré. »
Tout le monde, depuis le départ, se posait la question, quelle que soit la place qu'on occupait, juge, avocat des parties civiles ou avocat de la défense.
Maître Thierry Filion, avocat d'Hubert Caouissin.
Comment cet homme, parfaitement inséré, nonobstant les difficultés personnelles qui étaient les siennes, sans antécédent judiciaire, avait pu commettre de tels faits? On va évidemment attendre avec impatience, et c'est le cas souvent quand on est avocat en défense dans ce genre de dossier, un peu d'inquiétude, évidemment, les conclusions des experts. Et en prenant connaissance de ces conclusions, on va évidemment immédiatement comprendre que c'est sans doute l'instrument de défense le plus important qui est en train de surgir dans le dossier.
Après 8 interrogatoires devant la juge d'instruction, une enquête de personnalité, une expertise psychologique et une expertise psychiatrique, Hubert Caouissin est sollicité pour une contre-expertise psychiatrique. À quelques mois du procès d'assises, deux pointures se penchent sur son cas. Les docteurs Roland Coutenceau et Paul Bensoussan.
Nous avons demandé à ce que Hubert Caouissin soit extrait de sa prison pour pouvoir l'entendre au tribunal.
Docteur Paul Bensoussan, expert psychiatre.
Ce qui permettait à la fois un temps d'entretien beaucoup plus long et un cadre, il faut bien le dire, quand même plus humain et plus avenant que celui du parloir avocat d'une prison. On le fait passer dans la salle qu'on nous a octroyée, qui est une salle de condition assez spacieuse, assez agréable, assez lumineuse. Rien à voir avec le parloir d'une maison d'arrêt.
Hé, Caouissin ! T'es un chanceux ! Tu sors aujourd'hui. T'as rendez-vous avec deux experts psy. Allez, on t'amène au tribunal.
Une fois qu'il est avec nous dans une salle du tribunal, les conditions d'entretien sont beaucoup plus naturelles et beaucoup plus confortables. Hubert Caouissin nous donne l'impression d'un sujet d'une particulière psychorigidité, méfiant, interprétatif, rancunier, susceptible. Il est monobloc, il ne peut aucunement remettre en question ses convictions initiales, tout au plus pouvant dire que cette affaire est allée trop loin, mais à aucun moment, au contraire de son épouse que nous avons également expertisée, le délire par lequel il a été envahi ne peut être perçu comme tel.
Rapport d'expertise psychologique de Caroline Barbarias et Alain Dumès. La logique du délire d'Hubert Caouissin renverse le rapport à l'autre. En tentant de démasquer les Troadec, il s'agissait d'acculer l'autre qui, depuis sa plus tendre enfance, n'avait eu de cesse d'être malveillant envers lui. Cet autre venait se figurer en Brigitte et Pascal, sa belle-sœur et son beau-frère.
Hubert Caouissin a développé un délire typiquement paranoïaque sur une personnalité du même type. Mais la plupart des sujets qui ont une personnalité paranoïaque, et heureusement, ne développent pas de délire. Lorsqu'un psychiatre dit que quelqu'un est parano, le grand public comprend persécuté. C'est pas du tout ça. Parano, ça veut dire une hypertrophie du moi, une incapacité à remettre en cause ses convictions. Vous savez, quand on dit « il veut toujours avoir raison », une tendance à se sentir incompris, à être méfiant, rancunier, susceptible. Grosso modo, et pour le dire très simplement, c'est ça la personnalité paranoïaque. Mais sur ce fond de personnalité, parfois vont surgir certains délires. On a la conviction délirante d'un magot, dont il va découler la conviction délirante d'un préjudice. Pascal a volé ce magot, il a fait main basse sur ce magot. Ce délire s'enrichit dans ce qu'on appelle en secteur, c'est-à-dire dans un domaine particulier. Parce que si on parle de n'importe quoi d'autre avec Hubert Caouissin, il est parfaitement cohérent et personne ne peut faire le diagnostic de maladie mentale. À partir de là, il apparaît logique que son fils soit menacé. Henri est un ayant droit, on veut donc sa mort. Et là, il entre à la fois dans un système de vengeance pour avoir été lésé, mais aussi de défense de la vie de son enfant qu'il croit menacée. C'est, je pense, dans cette double conviction qu'il tire toute son énergie et avec, bien sûr, toute cette froideur qui lui permet d'aller jusqu'au bout. Ce sont des délires qui incubent en années. Dans un délire paranoïaque, le postulat initial n'est jamais remis en question, de sorte que tout vient l'alimenter. Il n'y a pas de hasard. Si, par exemple, Hubert Caouissin, qui guettait chez son beau-frère les signes d'un train de vie fastueux, il a acheté une voiture modeste ou voire misérable, ça signifiait qu'il masquait son train de vie. S'il avait acheté une voiture un petit peu ostentatoire, ça aurait validé le postulat initial. Il n'y a rien qui puisse faire douter un paranoïaque de sa conviction délirante.
Code B70, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Coutenceau et Bensoussan. Le récit des faits montre une autocritique inattendue mais partielle et superficielle. J'ai développé une paranoïa démesurée. Ça a commencé 4 ans avant les faits. J'y ai cru quand le beau-père a dit avant de mourir à ma belle-mère qu'il avait trouvé des pièces d'or dans la maison, mais sans dire où. Et les trois dès que j'en suis certain, avaient l'intention de faire assassiner mon fils parce que mon enfant était un héritier.
C'est un sujet qui a une susceptibilité particulière et qui a tendance à ruminer très longuement les affects pénibles. Donc, lorsqu'on le blesse, peut-être même sans le savoir, par un propos maladroit, eh bien, c'est quelqu'un qui va fixer ce propos et qui va développer à partir de là des tendances interprétatives. Je vous donne un exemple, assez banal d'ailleurs, en psychologie du voisinage. Il avait des voisins bruyants avant d'habiter la ferme dans laquelle les faits ont été en partie commis. Eh bien, il était persuadé que les bruits de chaises qu'on tirait sans délicatesse au-dessus de sa tête, même quand les gens rentraient tard le soir, c'était fait pour l'embêter, par jalousie. C'est redoutable parce que le sujet paranoïaque qui passe à l'acte, ça ne pardonne pas.
C'est un délire paranoïaque existant chez Hubert Caouissin, partagé d'ailleurs avec sa femme Lydie, une sorte de délire à deux.
Maître Thierry Filion, avocat d'Hubert Caouissin.
Ça veut dire qu'on a un ensemble de conclusions qui permettent d'avoir une clé de lecture de l'affaire qui est radicalement différente de celle sous l'angle de laquelle ce dossier est élu depuis le début, à savoir une sorte d'assassin sanguinaire qui va massacrer une famille avec préméditation. Là, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. On est dans quelqu'un qui, en réalité, souffre d'une maladie, d'une pathologie psychiatrique qui influence totalement son psychisme, puisque les experts parleront même de cage, d'étau dans laquelle Hubert Caouissin est prisonnier du fait de cette paranoïa délirante.
Après 4 années d'instruction, Hubert Caouissin comparaît devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le quadruple assassinat de sa belle-famille. Sa femme, Lydie Troadec, comparaît libre. Elle est accusée de recel de cadavres et d'avoir modifié la scène de crime.
Nous savions que ce procès risquait d'être très médiatisé.
Maître Thierry Filion, avocat d'Hubert Caouissin.
Et quand on arrive ce premier matin, ce lundi de juin, à Nantes, dans la salle des pas perdus, qui est assez spectaculaire, celle de Nantes, très très longue, très très haute de plafond, toute noire. Avant de rentrer dans la salle d'audience, on se trouve effectivement face à une horde de journalistes avec des caméras, des micros dans tous les sens.
Dans ce fourgon qui arrive au tribunal, Hubert Cahuissin, 51 ans, accusé du quadruple meurtre de la famille Troidec, il est assis dans le box aux côtés de son épouse et prêt, selon ses avocats, à s'expliquer devant la cour d'assises.
Il a eu toujours à cœur de participer à tous les interrogatoires, à toutes les reconstitutions auxquelles il a participé. Il a été toujours très, très détaillé dans ses explications et à l'audience, il n'a pas l'intention de changer d'optique.
Le plus important, je crois, à ce moment-là, quand ils vont rentrer dans ce box tous les deux le premier matin du premier lundi de l'audience, c'est qu'ils sont l'un à côté de l'autre pour la première fois depuis longtemps, puisque Hubert est en détention depuis mars 2017. Là, ils savent, quand ils rentrent dans ce box, qu'ils vont passer 3 semaines l'un à côté de l'autre dans une situation très très difficile pour eux, comme quand on est accusé évidemment de faits criminels, et aussi en proie à des questions qui vont se renouveler sur leurs rôles respectifs et en essayant, quand ils ne sont pas toujours d'accord sur ce qui s'est passé, de ne pas porter atteinte à l'autre. C'est vraiment ce qui va les relier encore pendant ce procès. Ce qui veut dire aussi que Hubert Cahuissin va sans doute moins parler que pendant l'instruction. Il va continuer à être extrêmement disert et précis dans les détails qu'il va donner sur les faits. Mais il va aussi faire attention à ne pas trop parler, répondre aux questions, écouter les questions surtout peut-être, et répondre aux questions précisément qui lui sont posées.
Monsieur Cahuissin, quel a été votre rôle et quel a été le rôle de votre épouse dans ce quadruple homicide ? Je vous redis ce que j'ai toujours dit. J'ai pénétré seul dans la maison de ma belle-famille et j'ai demandé à ma femme de conduire une voiture pour m'aider à transporter les corps. Elle n'a jamais participé au meurtre. Et pour les découpages, elle n'y a même pas assisté. Et s'occuper de notre fils.
Si un délire paranoïaque qui a habité la vie psychique d'un sujet pendant des années, si ce sujet-là se dit « tout cela était absurde, ça n'avait aucun sens, comment j'ai pu me faire un film, si j'ose dire, aussi absurde », eh bien c'est l'effondrement qui est absolument garanti.
Docteur Paul Bensoussan, expert psychiatre.
Et cet effondrement, nous y avons assisté en direct face à Lydie Troadec, l'épouse devant nous, que nous la rencontrions au tribunal de Nantes, et nous l'avons examinée toute une après-midi, et en fin d'entretien, mais sans aucune suggestion de notre part, simplement par le dialogue qui s'est instauré, par exemple, elle nous dit cette phrase incroyable, elle dit « Hubert me l'a dit et j'ai fini par le croire ». Et en le disant, on voit à un moment ses yeux s'embuer de larmes, puis les larmes couler, puis les sanglots la submerger. On lui demande bien sûr ce qui se passe et elle nous dit « Et si tout ça était faux ?»
Moi, j'y crois plus. Je crois plus à tout ça. Je sais qu'Hubert voulait nous protéger. Mais aujourd'hui, je comprends. Ça n'avait pas de sens.
La différence notable entre l'évolution de Lydie et d'Hubert Cahuissin, c'est qu'il semblait, pendant le déroulement de l'instruction et surtout à l'audience, que Lydie s'était rendu compte de la folie, en définitive, dans laquelle elle, sa maman et surtout son compagnon Hubert Cahuissin s'étaient enfermés au fil des années. Il résultait des dernières conclusions de ses experts. Hubert Cahuissin restait tout de même très ancré dans la croyance de la spoliation et du magot, et surtout dans la croyance que tous les deux, Lydie et lui, et leur fils, étaient en danger de mort.
Et je pense que, mais même aujourd'hui, dans sa prison, Hubert Cahuissin, au minimum, est encore habité par le doute, et peut-être même par la conviction qu'il y avait réellement un magot caché, qu'on n'en saura jamais rien. Il ne peut pas se dire quelle absurdité, tout ça parce que j'ai déliré. Ou alors il n'est pas totalement paranoïaque.
Le lendemain matin, le couple s'est construit une existence fantasmagorique uniquement tournée vers cette obsession. Une ruée vers l'or délirante nourrie d'interprétations malveillantes, selon Daniel Zaguri, qui a conclu à une altération du discernement pour Kawissin. Aujourd'hui, ce dernier croit d'ailleurs toujours en l'existence de l'or, Lydie Troidec plus du tout. Normal pour Michel Dubec, l'autre expert qui a sondé la quinquagénaire. Quand deux délirants sont séparés, le délire cesse pour la personnalité secondaire.
Faites entrer l'accusé.
Quand il raconte des faits, mais on ne s'aperçoit pas forcément que c'est lui qui est en cause. Il y a un moment pour autant, et c'est pas sur les faits que Hubert Kawissin va un peu craquer à l'audience, un moment principal, c'est quand son frère aîné est à la barre, et son frère aîné va, peut-être maladroitement, mais avec bonne foi, parce qu'ils ont des liens assez forts avec Hubert, remettre en cause certaines des déclarations d'Hubert sur leur mère, en disant peut-être que leur mère n'était pas si terrible, si pire que cela. Et comme certainement Hubert a vécu la relation à leur mère de manière plus difficile, voire cruelle que son frère aîné, il va se lever et il va interrompre violemment son frère.
Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Ma mère aime taper. T'as rien vu de tout ça. Alors ferme-la, sale menteur.
C'est la fois principale où on voit qu'Hubert Kawissin peut aussi avoir des réactions humaines, dictées par l'émotion. Il y a un autre moment où l'émotion d'Hubert Kawissin va affleurer dans son comportement, voire dans quelques larmes. C'est le moment où on assistera aux dépositions des personnes du monde éducatif qui s'occupent de son fils, dans le cadre du placement de ce fils. Et surtout, la déposition de cette femme qui a accompagné le fils d'Hubert Kawissin la première fois, au bout de au moins 2 ans ou 2 ans et demi, où le fils d'Hubert Kawissin va rendre visite à son père au centre pénitentiaire de Nantes. Mais elle racontera que ils vont se retrouver assez rapidement, malgré les circonstances. Le fils va venir sur les genoux de son papa. Il va y rester assez longtemps. Et la séparation sera difficile. Il se regarde quand le fils s'en va. Et je crois que la cour et le jury seront sensibles et à cette déposition de cette femme qui accompagnait le fils d'Hubert Kawissin en maison d'arrêt. Et là, on retrouve évidemment un moment d'humanité dont étaient dépourvues, évidemment, toutes les vocations des faits terribles sur lesquels on s'est appesanti durant le procès.
Lydie Troadec écope de 3 ans de prison, dont 2 ans ferme. Et Hubert Kawissin est condamné à 30 années de réclusion criminelle sans période de sûreté, car la cour d'assises a retenu une altération de son discernement. Entre-temps, leur fils a été placé en foyer, et pour préserver sa santé mentale, il a changé de nom. Lui qui, après le drame, se présentait en disant « Je suis l'enfant de l'affaire Troadec ». C'était On de la Traconte, Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête Vincent Deby. Réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez On de la Traconte, Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.